La revue de presse, Claude Askolovitch, on parle de Hong Kong ce matin.
Et on parle de Joyce qui a 24 ans, elle travaille dans une pâtisserie et croit en la liberté et donc manifeste. Mais quand elle rentre chez elle le soir, elle trouve son père devant la télévision qui lui dit que les émeutiers devraient être punis. Il est persuadé, dit-elle, que les États-Unis nous payent pour agir. Et quand elle dit à papa que la démocratie est un juste combat, il lui répond que le gouvernement ne sera jamais d'accord. La sœur de Joyce elle-même ne comprend pas qu'on ait empêché les gens de travailler en bloquant le métro. Tout ceci est fort bien raconté dans Le Figaro qui montre une réalité triste et troublante, celle de ces Hongkongais qui ne veulent pas du mouvement, des braves gens, des commerçants, des adultes, que la contestation incommode au plus profond de leurs valeurs, tel Steven, sexagénaire, choqué que ses enfants soient venus à son anniversaire dans un restaurant après avoir défilé sans même enlever leurs vêtements de manifestants alors que le noir peut porter malheur, personne ne se parlait à table. Dans le quartier de North Point, on prie pour que le calme revienne. Les habitants là-bas sont des immigrés venus de Chine continentale il y a des décennies pour échapper au communisme, à la misère, aux atrocités de la révolution culturelle de Mao. Mais aujourd'hui prospèrent, les habitants de North Point ont peur que les émeutes d'enfants gâtés, disent-ils, mettent à mal leur paradis. On trouve ce matin dans les journaux des histoires de résistance au passé et au présent. Sont-elles toujours vaincues? La Voix du Nord évoque ces résistants d'il y a trois quarts de siècle déportés dans le fameux train de Loos deux jours avant la libération du Nord. Dans Mediapart, on me dit que nos services de renseignement surveillent une poignée de Français d'ultra-gauche partis combattre Daesh aux côtés des Turcs kurdes. Pourraient-ils utiliser ici ce qu'ils ont appris comme technique de guerre là-bas? Dans Slate, je lis des résistances coréennes, des femmes de l'île de Jeju qui se révoltaient jadis contre l'occupant japonais qui voulait imposer le produit de leur pêche. On les appelle les Anyos. Ce sont des femmes entraînées à plonger en apnée 2-3 minutes par 10 mètres de fond pour ramener des fruits de mer. Elles existent toujours, elles meurent souvent de fatigue et de froid et résistent encore. En Californie, les grandes entreprises de la tech, me disent les échos, veulent désamorcer la résistance de leurs employés qui croient en la technologie libertaire et protestent quand leurs patrons collaborent avec les autorités pour traquer les migrants. À Genève, je l'ai lu dans la Provence, un habitant d'Aubagne fait la grève de la faim devant le siège de l'ONU. On l'appelle Petit Jean, comme le compagnon de Robin des Bois. Il était street medic pendant les manifestations de Gilets jaunes et a vu un manifestant devenu un ami perdre un œil. Il veut être reçu par le président Macron. Une de ses amies s'inquiète. Petit Jean se met en danger depuis 19 jours et personne ne parle de lui. C'est fait.
Un enfer de tomates dans Le Monde.
Le Monde qui poursuit une série sur les dessous de l'alimentation de masse, commencée ce week-end par des poulaillers gigantesques en Hollande et qui se poursuit en Espagne, en Andalousie, où poussent des tomates dans des serres alignées sur la superficie de trois villes de Paris. Ces tomates sont bio, pollinisées aux abeilles, sans chimie, mais derrière ce décor, on trouve des réserves d'eau épuisées, des travailleurs pressurés, exploités, souvent venus du Maroc pour vivre dans des taudis trimés dans des serres surchauffées et être virés s'ils vont aux toilettes sans prévenir le chef. C'est à ce prix que nos rayons sont bien achalandés. En Andalousie, on lit « I love Almeria » sur des panneaux dans la capitale de la tomate, qui se célèbre en juin dans un gazpacho de 9800 litres. Il est des fiertés plus innocentes. La République du Centre me prouve que la conquête de Mars est née à Orléans, dans un dossier consacré à nos scientifiques du Loiret qui travaillent au CNRS sur la vie extraterrestre. Les échos sont très fiers d'un Français, Gabriel Zucman, un prof d'économie à Berkeley qui murmure à l'oreille de la gauche démocrate et lui propose d'importer notre vieil impôt sur la fortune. Il marcherait aux États-Unis mieux qu'il a marché chez nous. Les échos pour l'Amérique, si ça vient d'un Français, sont donc pour les impôts. Monaco Matin parle de la fierté de tout un peuple à propos d'un gamin de 21 ans, Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix de Belgique en Formule 1. Mais avant d'être une fierté, Leclerc est un jeune homme plusieurs fois endeuillé, me dit l'équipe. Il a dédié sa victoire à son ami Antoine Hubert, tué la veille samedi en Formule 2 sur le même circuit de Spa-Francorchamps. L'équipe me montre une photo vieille de 9 ans, des gamins tout frais posent après une course de karting. Charles Leclerc est petit, sa main s'élève sur l'épaule d'Antoine. À la une de l'équipe, Leclerc regarde vers le ciel. Que nous réserve-t-il? Je vois dans Le Parisien, dans Le Progrès, des visages d'enfants. Timothy, 19 ans, qu'un forcené a poignardé à Lyon. Sofiane, 17 ans, qui lui parlait et le consolait pendant qu'il s'en allait. Je vois dans Le Journal de Saône-et-Loire qu'on a marché à Montceau-les-Mines en l'honneur de Mathieu, 9 ans, renversé et tué par une voiture au mois d'août. Je vois dans L'Indépendant qu'on a marché aussi à Salle d'Aulne pour que le petit Louis reste avec sa maman quand des juges veulent le renvoyer chez son père au Japon. Lui a pu rentrer à l'école aujourd'hui. Quelle chance infinie.
Et la rentrée des classes, justement, Claude, imprègne nos journaux.
Que chacun, cette rentrée, peut annoncer à sa manière. Et j'aime personnellement celle de Marie Picmal, journaliste à Libération, qui est allée revoir un vieux copain, Slavi, qu'elle a connu quand il avait 8 ans, un Rom venu de Bulgarie qui ne lâche pas l'école en dépit des bidonvilles ou dans un incendie quand il avait 7 ans. Il a perdu une copine d'enfance en dépit de la pauvreté de sa mère partie. Il grandit, il boxe, il parle des filles, il sera pompier. Il n'y a dans cet article que de la joie. Elle vaut la joie de Slavi, celle de Yannick Moisson, unique instituteur pour cet élève de l'île de Wédic au large de Quiberon. C'est dans Ouest-France. Cet homme, en enseignant, prolonge la vie.
Merci Claude pour cette revue de presse.